Cette émission vous est présentée par NHCO Nutrition, laboratoire français, créateur de compléments alimentaires santé, minceur et bien-être, spécialiste des acides aminés.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
Bonjour Célia.
Bonjour Fabrice.
Célia Morès sur Nutri Radio, on passe par un autre système aujourd'hui d'enregistrement de ces émissions. Toujours dans les conditions du direct, mais on est avec un nouveau micro, un nouveau système. J'espère que vous allez mieux nous entendre. Est-ce que vous êtes en pleine forme Célia?
Ben écoutez, oui, tout à fait, hein, en pleine forme. Depuis quelque temps, il fait beau dans ma région, donc je suis contente. Et les vacances approchent, donc je suis encore plus contente.
Oh là là, allez, je ne sais pas où est-ce que vous allez partir en vacances ou si vous avez tout simplement décidé de vous reposer. Et là, je parle à tous les auditeurs, mais on a besoin de faire un petit break. Le break de printemps, le spring break, tiens, c'est ça. Ça y est, j'ai trouvé d'où ça venait. Bon, avant de se détendre, on va... C'est pas qu'on va se prendre la tête, mais on va parler du cerveau et on va aller à la découverte du système nerveux central. Commencer par la moelle épinière. Donc là, on va explorer dans les émissions qui vont venir. Vous allez voir, ça va être passionnant pour tout connaître et tout comprendre du système nerveux central. En tout cas, presque tout. La moelle épinière, qu'est-ce que c'est, Célia?
La moelle épinière, c'est ce que nous avons au sein finalement de notre colonne vertébrale, chers auditeurs et chers Fabrice. Vous savez, la moelle épinière, c'est ce qui nous permet de faire initier les mouvements. En fait, notre moelle épinière, elle part du tronc cérébral dont nous parlerons tout à l'heure en deuxième partie d'émission, et elle innerve insérée dans notre colonne vertébrale. Elle est insérée dans cette colonne vertébrale, elle y est rattachée pour ne pas trop bouger, on va dire, elle est évidemment protégée comme le cerveau par les méninges. Et la moelle épinière, à quoi elle va servir? Elle va servir à transmettre l'information des étages supérieurs, donc notamment du tronc cérébral, du cervelet, et notamment surtout du tronc cérébral et du cerveau, au niveau des organes et des muscles, et de nos tissus, et nos organes, nos muscles et nos tissus vont, via la moelle épinière, envoyer des informations aux instances supérieures, si je puis dire, donc notamment à notre tronc cérébral et à notre cerveau. Il faut voir la moelle épinière comment, chers auditeurs? Comme une autoroute à double sens. On part vers les vacances. C'est bientôt les vacances, justement, que ce soit de printemps pour certaines régions, ou en tous les cas, un peu plus tardivement, les vacances d'été. Donc, on va faire quoi? On part vers les vacances. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir le retour des vacances. Donc, votre moelle épinière, c'est un double sens, une autoroute à double sens qui va transmettre les informations des instances supérieures du système nerveux central au niveau supérieur, justement, et il va envoyer ces informations et les récupérer. Alors, à quoi ça va servir? Notamment, on va avoir la moelle épinière, déjà, elle va être séparée, différenciée en différentes types de moelle. On aura la moelle cervicale, la moelle thoracique, la moelle lombaire, la moelle sacrée jusqu'au coccyx. En fait, elle va suivre le même schéma que nos vertèbres cervicales. On a les vertèbres cervicales, les vertèbres thoraciques, les vertèbres lombaires, les vertèbres sacrées et le coccyx. C'est exactement la même chose. Alors, au niveau de cette moelle épinière, effectivement, elle va faire quoi? Elle va capter les informations sensorielles, tactile. Lorsque vous touchez quelque chose, chers auditeurs, et que vous touchez, vous avez cette sensation de fraîcheur parfois quand vous touchez une table, ou de chaleur lorsque vous mettez éventuellement votre main sur un endroit chaud, vous avez ces sensations de la peau et votre cerveau vous permet de les interpréter, ces sensations. Vous avez cette sensation, vous dites, oh mon Dieu, c'est chaud, c'est froid, je sais que je suis assis sur une chaise. Tout ça, c'est grâce à votre moelle épinière, parce qu'elle va transmettre ces informations vers le cerveau. Et évidemment, en retour, le cerveau va permettre de lui faire transmettre d'autres informations pour justement contrôler votre mouvement volontaire. Ainsi, si vous levez le bras, c'est grâce effectivement à votre moelle épinière. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la moelle épinière, on va avoir des nerfs spinaux qui vont évidemment venir partir de la moelle épinière et innerver, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous nos organes, la peau et nos muscles. Voilà à quoi elle sert. C'est vraiment très important parce que si on a une section de la moelle épinière, ça dépend où est la section, on peut devenir tétraplégique ou paraplégique. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a une section de la moelle épinière, toute la partie en dessous de la section va être touchée et donc du coup, certains mouvements ne pourront plus se faire. C'est ainsi qu'on va avoir des personnes qui en raison d'une lésion de la moelle épinière vont devenir donc soit tétraplégiques, soit paraplégiques, mais il va y avoir d'autres types de problèmes, comme peut-être de défécation, parce que justement, on sait que la moelle épinière innerve le sphincter externe qui permet effectivement de maintenir les fesses dans le rectum avant de pouvoir aller déféquer. Donc, il peut y avoir un problème de continence, ce qu'on appelle comme ça, ou de miction chez ces personnes-là. Il faut savoir aussi que notre moelle épinière est impliquée dans les activités réflexes. Alors, activité réflexe, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que par moment, on ne réfléchit pas. Imaginez, vous vous plantez une aiguille dans le doigt parce que vous marchez à la campagne et il y a des aiguilles de pin. Vous savez, ça arrive souvent, on se plante une aiguille dans le pied. De manière non consciente et de manière totalement automatique, vous allez faire quoi? Vous allez retirer votre pied sans même y réfléchir. C'est une activité réflexe. Certes, ensuite, les informations montent à votre cerveau pour interpréter que vous avez eu mal, la douleur, etc. Donc, de manière un peu plus lente, mais de manière réflexe, vous retirez votre pied. Pourquoi? Parce que dans la moelle épinière, il y a à la fois de la substance blanche, cette fameuse substance blanche qui finalement est constituée de fibres d'axones. Ce sont des axones qui permettent de véhiculer l'information. Donc, c'est l'image de l'autoroute. Mais on a de la substance grise qui permet effectivement, où il y a les corps cellulaires des neurones et qui permettent effectivement d'effectuer aussi directement cette activité réflexe. Pourquoi? Vous vous piquez. Donc, certes, ça va monter dans vos instances supérieures au niveau du cerveau, va-t-on dire, pour interpréter cela comme douleur, etc. Mais tout de suite, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir quoi? Le réflexe, comme je viens de le dire, de retirer votre pied. C'est grâce à quoi? Tout simplement, au niveau donc de la moelle ascendante, effectivement, l'information au niveau de l'axone monte. Et puis, à un moment donné, ça va aller grâce, effectivement, aux interneurones, ça va aller au niveau de la substance grise de la moelle épinière qui, tout de suite, va interpréter le signal et va permettre, en retour, que vous puissiez, de manière directe et non volontaire, sans vous en rendre compte, retirer votre pied pour ne plus avoir mal. Voilà. Il faut savoir, donc, effectivement, il y a 31 paires de nerfs spinaux. Pourquoi? Parce qu'il y a 30 vertèbres. Et comme les nerfs sortent entre les disques intervertébraux, ça veut dire qu'il y en a 31. Et donc, il y a des racines antérieures et postérieures. Si on regarde le schéma de la moelle sur un bouquin d'anatomie, on va voir qu'il y a une racine antérieure et postérieure qui sort de la moelle et qui vont se rejoindre ensuite ensemble comme une même route pour former ce qu'on appelle le nerf spinal. À savoir que la racine antérieure est dédiée à l'information sensitive, donc véhicule l'information ascendante de nos organes, de notre peau, etc., et de nos muscles vers les instances supérieures. Et elle est formée aussi de racines postérieures qui, elle, est dédiée au contrôle moteur et qui permettent de réaliser un mouvement. Suite à ça, effectivement, en dehors des lésions dont je viens de vous parler au niveau des vraies lésions de la moelle épinière avec la tétraplégie, la paraplégie, on peut avoir, si on a des problèmes de petites lésions, de problèmes au niveau des voies ascendantes, des problèmes de sensibilité tactile. On peut avoir aussi des problèmes d'hémiplégie, puisqu'on sait que s'il n'y a qu'une partie de la moelle, par exemple, si c'est la moelle gauche qui va être touchée ou la moelle droite, ça ne va pas être forcément la même partie du corps qui va être touchée puisqu'on sait qu'il y a une décussation. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on sait que la partie droite du cerveau contrôle, et c'est pareil évidemment pour la moelle, la partie gauche du corps. Et inversement, ce qui veut dire qu'on peut avoir parfois des problèmes de juste une partie du corps qui est touchée et pas toute, et pas tout le corps en entier. Et évidemment, on a aussi des douleurs lorsque vous avez des hernies discales. Vous savez, ces fameuses hernies discales, c'est dû à quoi? Ça comprime le nerf et c'est ça qui engendre les douleurs causées par l'hernie discale. Voilà pour la moelle épinière. Donc, évidemment, il faut en prendre soin, même si elle est protégée, parce qu'elle permet vraiment de contrôler, de réaliser certains mouvements et de faire dialoguer finalement notre corps avec nos instances supérieures.
Alors, Célia Morès, on va parler, on va continuer d'échanger dans cette émission. On continue sur la moelle épinière ou on passe à autre chose là? J'ai eu le petit conducteur, le tronc cérébral, c'est pour la semaine prochaine ça?
Non, aujourd'hui c'est le tronc cérébral aussi. Okay. On a le tronc cérébral.
On a une activité chargée là.
Et ensuite, on va voir le cervelet pour cette émission.
Très bien, j'espère qu'on aura le temps de tout voir. Vous êtes parti comme une moto sur l'autoroute donc de cette moelle épinière. Est-ce qu'elle est fragile cette moelle épinière? Parce qu'on a l'impression, vous savez, surtout au ski, on tombe, et on a l'impression qu'elle peut se fissurer très facilement quand même.
Alors, elle est fragile, oui, s'il y a une lésion, s'il y a un problème. Simplement, elle est quand même totalement protégée par la colonne vertébrale et par les méninges. Donc, il y a peu de risques lorsqu'on tombe au ski, ça, à part si on fait une chute, qu'on tombe d'une falaise, forcément. Là, on peut se casser effectivement la colonne vertébrale et c'est en cassant la colonne vertébrale que la moelle épinière peut être touchée. Sinon, dans les chutes, normalement, il n'y a pas de souci, justement parce qu'elle est protégée à la fois par les vertèbres et à la fois par les méninges. Donc, il y a quand même peu de risques. Il faut vraiment avoir, je vous dis, on se casse la colonne vertébrale, ou là, ça peut sectionner la moelle, ou si on a après une lésion à l'intérieur de la moelle, mais ça, c'est interne, c'est pas dû à une chute. Donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir à l'esprit. Certes, il faut faire attention à sa colonne vertébrale parce que si on tombe, des personnes qui font parfois des grosses chutes, vous savez, chers auditeurs, cher Fabrice, qui tombent d'une falaise ou qui font une chute et qui tombent vraiment sur la colonne vertébrale avec section de la colonne vertébrale, effectivement, là, il peut y avoir section de la moelle épinière.
Bon, merci, parce que j'avais l'impression, moi, sur les deux, trois histoires dernières que j'avais eues, que c'était des petites chutes comme ça, et boum, il y avait eu quelque chose à ce niveau-là, donc je préfère être certain et que nos auditeurs aussi ne s'inquiètent pas pour rien. On marque une toute
petite... Normalement, non, il n'y a pas de problème.
On marque une toute petite pause et on se retrouve après ceci.
NHCO Nutrition est un laboratoire français, expert en micronutrition et spécialisé dans les compléments alimentaires formulés à base d'acides aminés. Découvrez des compléments alimentaires hautement dosés pour améliorer votre santé et votre bien-être. Des gammes complètes pour vous aider à lutter contre la fatigue, le stress, vous aider dans vos objectifs minceurs ou encore pour améliorer la beauté de la peau et des cheveux. Profitez également de conseils personnalisés sur le site nhco-nutrition.com ou en pharmacie partenaire.
La sphère neuro, Célia Morès sur Nutri Radio.
Alors, elle est motivée comme jamais, Célia Morès, un docteur en neurosciences avec nous chaque semaine sur Nutri Radio. Quelle chance pour nous expliquer le fonctionnement de notre cerveau. Alors, il faut être accroché, évidemment, il faut être un petit peu concentré parce que même si elle a la particularité de bien nous expliquer, ce sont des sujets qu'on n'aborde pas forcément d'habitude, à part certainement si on est en études, si on étudie le cerveau en médecine ou je sais pas ailleurs. Vous étudiez où, vous enseignez où, vous, Célia?
Alors, j'enseigne actuellement donc dans deux écoles différentes, dans une école de diététique et nutrition humaine qui est le DNH à Paris, et donc j'enseigne tout ce qui est justement un petit peu neurosciences, comportement alimentaire, enfin on a déjà fait des émissions sur ce sujet, voilà. Et j'enseigne aussi à EM Lyon pour tout ce qui est, donc qui est une école à Lyon, une grande école qui fait partie des grandes écoles, et j'enseigne tout ce qui est psychologie humaine et cognition, donc justement certains aspects que nous avons déjà vus au sein sur Nutri Radio, comme l'attention, la perception, etc., pour des masters.
Très bien. Voilà. Vous voyez quand même le niveau, mesdames, messieurs. Hein, et vous l'avez sur Nutri Radio. Donc aujourd'hui, on est parti à la découverte du système nerveux central. Vous nous avez expliqué ce qu'était la moelle épinière, ce que c'était, à quoi elle servait, son fonctionnement et sa constitution. On attaque maintenant le tronc cérébral.
Tout à fait, Fabrice. Alors, chers auditeurs, le tronc cérébral, c'est tout simplement la structure qui est au-dessus de la moelle épinière. C'est-à-dire que le prolongement du tronc cérébral, c'est la moelle épinière. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce tronc cérébral, il est constitué, lorsqu'on regarde des bouquins d'anatomie, juste comme ça, la structure du tronc cérébral, de trois grandes parties, le mésencéphale, le pont, et le bulbe. Alors, je ne rentrerai pas, certes, dans les détails de chacune de ces structures, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, au niveau du tronc cérébral, c'est de là que partent les nerfs crâniens. Vous vous souvenez, on avait déjà parlé des nerfs crâniens comme du nerf vague dans le péristaltisme, dans le fait de pouvoir faire en sorte que le bol alimentaire, finalement, progresse de la bouche à l'anus. Il y avait une intervention du nerf vague. Le nerf vague est impliqué aussi dans le comportement alimentaire, mais pas que. Le nerf vague innerve un bon nombre d'organes de l'organisme, l'estomac, etc., mais pas que. Et c'est quoi le nerf vague? C'est un nerf crânien. Mais il y a 12 paires de nerfs crâniens. Notamment, on a le nerf oculomoteur, le nerf, évidemment, olfactif, etc., etc. Donc, au niveau du tronc cérébral, on a ces nerfs crâniens. Ce qui va permettre, effectivement, ce qui fait en sorte que quoi? Que votre tronc cérébral reçoit des informations sensitives et ensuite, évidemment, il va permettre de porter une réponse, notamment motrice. Alors, notamment, le tronc cérébral est impliqué dans quoi? Dans les saccades oculaires. Dans les mouvements aussi, la coordination de la tête et le cou. Dans ce type de mouvement volontaire, c'est sa réponse motrice aux informations sensitives, sensorielles, qu'il reçoit, effectivement, via, par exemple, le nerf oculomoteur, via le nerf olfactif, etc. Donc, il est impliqué, lui aussi, dans le contrôle du mouvement, un petit peu comme la moelle épinière, mais différemment. La moelle épinière véhicule les informations pour que le mouvement puisse avoir lieu. Elle est impliquée. Le tronc cérébral, d'ailleurs, qui est au-dessus de la moelle épinière, est impliqué dans le contrôle du mouvement. Il va effectivement permettre de comprendre certains types de perceptions. Je vous ai dit quoi tout à l'heure sur la moelle épinière ? Que la moelle épinière permettait de véhiculer de manière ascendante l'information sensorielle. C'est-à-dire que dès que vous touchez quelque chose, effectivement, cette information va monter au cerveau. Donc, elle va prendre le chemin d'abord via la moelle épinière, via les axones situés dans la moelle épinière, la substance blanche de la moelle épinière. Mais ensuite, ça va arriver au niveau du tronc cérébral qui va capter ces informations. Et ce qu'il va faire, le tronc cérébral, c'est qu'il va envoyer ces informations à notre cortex pariétal. Or, le cortex pariétal, nous le verrons la semaine prochaine, chers auditeurs, donc dans l'émission que j'ai dédiée au cerveau, est impliqué dans tout ce qui est somesthésie, toucher, sensorialité finalement. Donc, c'est le cortex pariétal qui permet d'évaluer, de traiter l'information sensorielle lorsque vous touchez quelque chose et que ça vous semble un peu froid, que ça vous semble un petit peu chaud ou que vous savez que vous êtes en train de toucher une table. Par exemple, vous mettez les mains sur la table, vous la touchez, cette information sensorielle monte à votre cerveau au niveau du cortex pariétal qui est dédié à l'interprétation de ces données. Ces données en amont passent certes par la moelle épinière, mais passent aussi par le tronc cérébral. Et du coup, le tronc cérébral va envoyer ces informations au cortex pariétal. Et en retour, c'est le cortex pariétal qui va vous permettre d'avoir cette sensation tactile que l'on ressent tous. Il faut savoir quoi aussi ? Que le tronc cérébral ne sert pas seulement à cela. Il permet évidemment de contrôler le mouvement, il permet aussi de maintenir la posture et l'équilibre du corps. C'est-à-dire que lorsqu'on a des lésions du tronc cérébral, on va avoir des tremblements. Justement, les gens qui tremblent, il y a des lésions au niveau du tronc cérébral. On va avoir aussi quoi ? Il est impliqué dans quoi ? Dans l'équilibre, la coordination des mouvements. Il est impliqué aussi dans les instincts, j'allais dire, très bas, presque primaires, comme la peur, certains types d'anxiété. Il va être impliqué aussi dans quoi ? Il va être impliqué dans les cycles veille-sommeil, mais pas que. Et on y retrouve aussi au niveau du tronc cérébral, certains noyaux au niveau de la substance grise du tronc cérébral, on va retrouver des noyaux dédiés notamment à ces neurotransmetteurs dont nous avons déjà parlé sur Nutri Radio, comme la dopamine, donc impliqué dans quoi ? Dans le contrôle de la motricité. N'oubliez pas, les Parkinsoniens qui ont des problèmes moteurs manquent de dopamine, mais notamment de dopamine, celle qui est située au niveau de la substance noire, celle qui est située donc au niveau du tronc cérébral. Il y a un manque de dopamine à ce niveau-là. Il y a l'acétylcholine, bien évidemment, mais il y a aussi effectivement la sérotonine qui est impliquée dans tout ce qui va être veille-sommeil notamment. Et le tronc cérébral va être impliqué donc dans l'équilibre, la coordination des mouvements, le cycle circadien veille-sommeil, comme je viens de le dire, mais aussi la vigilance qui nous permet de rester vigilants de manière un petit peu animale et primaire. Voilà le rôle du tronc cérébral.
Le tronc cérébral, on en sait beaucoup plus évidemment, et peut-être qu'avant d'écouter cette émission, vous étiez même pas posé la question, voyez ? Et là, hop, information, c'est rentré, le tronc cérébral, petite pause, et on se retrouve dans un instant sur Nutri Radio avec Célia Morès.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
La sphère neuro qui porte vraiment bien son nom, parce que on explore le cerveau sous toutes ses formes. Là, on découvre notre système nerveux central, le SNC. Première partie dédiée à la moelle épinière. Juste avant la pause, on nous a expliqué, quand je dis « on », c'est Célia, nous a expliqué ce qu'était le tronc cérébral et l'a expliqué fort brillamment. Je dois dire que Célia, vous m'épatez. Et maintenant, le cervelet. Alors le cervelet, pour moi, jusqu'à maintenant, là, c'était un plat qu'on commande de temps en temps au resto. Expliquez-nous. Quoi s'agit-il ?
Alors non, le plat que l'on commande au resto, c'est la cervelle, donc c'est plutôt le cerveau
ah oui,
en fait.
Ah oui, mince, c'est horrible. Tous les amis végétariens qui nous écoutent ont décroché, je plaisantais évidemment.
C'est plutôt le cerveau, mais effectivement le cervelet, c'est la structure. Alors le cervelet est rattaché au cerveau et est rattaché au tronc cérébral. C'est comme un petit cerveau, il est considéré comme un petit cerveau parce qu'en tous les cas, il y aurait hein, selon les écrits en neurosciences. Donc, je dis il y aurait, parce que peut-être que si un chercheur nous écoute, il va me dire qu'aujourd'hui, il y a eu un changement. Mais enfin, en tous les cas, il y a encore 2-3 ans, il était considéré comme le petit cerveau. Il y aurait autant de neurones dans le cervelet qu'il y en aurait peut-être dans le cerveau lui-même. Donc, c'est cette structure qui est en dessous du cerveau et qui est à côté donc du tronc cérébral, constitué lui aussi de substances grises et de substances blanches. Donc, la particularité du cervelet, c'est que contrairement à ses amis, comme j'allais dire, comme le tronc cérébral ou le cerveau, il n'y a pas de décussation. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il fonctionne de manière ipsilatérale, ce qu'on appelle ipsilatérale. C'est-à-dire que la partie droite du cervelet contrôle la partie droite, on va dire, du corps, et inversement. Il n'y a pas de décussation comme il peut y avoir, effectivement, pour le cerveau, on le verra la semaine prochaine, nous, l'hémisphère droit contrôle la partie gauche du corps, et inversement. Alors, à quoi sert ce cervelet? Déjà, il est en relation avec la moelle épinière. Il va recevoir les informations de la moelle épinière, du tronc cérébral, mais aussi du cortex, et lui-même va envoyer des informations à ses structures. Lui aussi, il est impliqué dans le contrôle du mouvement, mais différemment du tronc cérébral. C'est-à-dire que lui, il ne va pas initier le mouvement à proprement parler, mais il va permettre de détecter les erreurs, effectivement, de mouvement. Lorsqu'on fait un mouvement, on réadapte son mouvement si on n'arrive pas à le faire. Hein, c'est-à-dire qu'on évalue le mouvement réel par rapport au mouvement pensé que nous voulions faire au départ. C'est comme ça que lorsqu'on essaye de prendre un verre, alors nous, ça se voit moins pour nous, mais lorsque nous étions tous enfants, chers auditeurs, on essayait de prendre le verre, on n'y arrivait pas, et au fur et à mesure, on a adapté notre mouvement, on a détecté les erreurs que nous étions en train de faire, notre cervelet, a détecté les erreurs que nous étions en train de faire pour faire en sorte que nous puissions faire ce mouvement sans souci. Eh bien, le cervelet sert à ça. Il va adapter le mouvement selon l'objectif voulu. Ça va être important. Il ne réalise donc pas le mouvement lui-même, il va comparer entre le mouvement réellement réalisé et le mouvement qui était voulu au départ. Donc, il va recevoir des informations aussi, notamment par exemple vestibulaires du tronc cérébral. Vous savez, lorsqu'on a des problèmes d'équilibre aussi, ou d'ajuster les mouvements, de modifier l'équilibre, lorsqu'on a le mal des transports, lorsqu'on a des problèmes vestibulaires de l'oreille, le nerf vestibulaire envoie des informations au niveau du tronc cérébral, puisque le nerf vestibulaire, évidemment, est lié au niveau du tronc cérébral, mais aussi ces informations vont parvenir au cervelet qui va permettre d'ajuster effectivement le mouvement, de modifier l'équilibre pour nous maintenir notre corps à l'équilibre. Donc, évidemment, les pathologies, par exemple, lorsque je disais, chers auditeurs, qu'on ajustait notre mouvement entre le mouvement voulu et le mouvement réellement réalisé, les personnes qui ont des lésions au niveau du cervelet, parfois, elles n'arrivent pas avec leur index à toucher le bout de leur nez. Tout simplement, c'est pas qu'elles n'arrivent pas à lever le bras et aller vers leur nez, c'est qu'elles n'arrivent pas à faire ce mouvement parce qu'elles n'arrivent pas à ajuster le mouvement et le cervelet n'est pas capable, effectivement, de faire le lien entre mouvement réellement réalisé, mouvement prédit, souhaité, et de faire en sorte qu'elles puissent réellement toucher le bout de leur nez. C'est aussi des personnes en pathologie, vous allez avoir des personnes qui vont avoir du mal à exécuter des mouvements, qui vont avoir aussi du mal à se maintenir debout, tout simplement parce qu'il y aura eu des lésions au niveau du cervelet. Donc, le cervelet contrôle le mouvement, la posture permet d'adapter le mouvement à ses objectifs et il envoie et il reçoit des informations à la fois du cortex moteur, que nous verrons évidemment la semaine prochaine, mais aussi de la moelle épinière, du tronc cérébral et du cortex. Donc finalement, au niveau de tout ce qui va être mouvement, on va voir que ça va être un ensemble de structures qui vont permettre de réaliser ces mouvements, soit parce que ça va contrôler l'initiation du mouvement, ça va permettre l'initiation du mouvement, ou alors ça va permettre d'ajuster le mouvement ou de garder ce tonus musculaire, le fait que nous puissions être à l'équilibre sans effectivement, lorsqu'on marche ou lorsqu'on est assis, être totalement avachi et perdre le contrôle de sa posture musculaire, puisqu'on sait que les muscles, même au repos, il y a évidemment une tension musculaire, ce qu'on appelle le tonus musculaire. Donc finalement, ces trois régions sont déjà interconnectées entre elles, la moelle épinière, le cervelet et le tronc cérébral.
Eh bien, vous savez quoi après avoir écouté votre émission, j'en arrive à la conclusion que nous sommes des petits êtres fragiles et que notre cerveau, franchement, est constitué de plein de choses intéressantes et qui sont interconnectées, mais quand même finalement assez fragiles.
Totalement, je suis totalement d'accord. Et effectivement, faire des auditeurs, il faut vraiment en prendre soin parce que voilà, les conséquences peuvent être quand même assez importantes. Et c'est vrai qu'à certaines régions, lorsqu'il y a des lésions, ça pardonne beaucoup moins que d'autres. Hein. Généralement, on dit que quand le tronc cérébral, par exemple, est touché, c'est beaucoup plus grave, effectivement, puisque ça touche les instincts aussi primaire, va-t-on dire, fonctionnement primaire, que lorsqu'il y a finalement une tumeur au niveau du cerveau. Donc, c'est vrai qu'il faut y faire attention et c'est vraiment, tout est interconnecté, donc on s'en rend pas compte quand même. De soi-même, on a l'impression que c'est le cerveau qui commande tout. Non, le cerveau, on parle beaucoup du cerveau, mais c'est un abus de langage. On devrait parler du système nerveux central qui, effectivement, permet, qui est impliqué dans beaucoup de choses. Et là, on l'a vu dans notamment l'initiation des mouvements, le fait de pouvoir se maintenir debout, de maintenir sa posture et de contrôler ses mouvements et de faire les mouvements adéquats pour ne serait-ce que prendre un verre d'eau et pouvoir le boire, c'est ben justement notamment grâce à notre cervelet.
Ah oui, le cervelet. Est-ce que ça vient de là, le mot écervelé ? T'as pas de cerveau, t'as pas de cervelet. Vous voyez ce que je veux dire ?
Alors, je ne sais pas, mais c'est possible que par abus de langage, parce qu'effectivement, le cervelet est certainement une région cérébrale un peu plus primaire que tout ce qui est cortex, c'est possible que ça vienne de là. J'en suis pas certaine parce que les expressions, parfois on est surpris par les expressions françaises et on se rend pas compte d'où ça peut venir. Donc voilà, je peux pas répondre à la question, mais ça pourrait être une explication effectivement de cette expression-là.
Bon, on va se renseigner pour la semaine prochaine peut-être, hein, ou alors, chers auditeurs, peut-être que vous vous dites, mais en fait, on s'en fout complètement. Fabrice, ce n'est pas le sujet et remerciez donc Célia. C'est ce que je fais. Merci Célia pour cette émission. On va se retrouver la semaine prochaine, donc mercredi prochain, 17h-18h, c'est chaque semaine sur Nutri Radio et cette émission podcast hein, disponible si vous venez d'arriver ou si vous voulez la réentendre et réécouter dans son intégralité, ce sera à partir de dimanche 18h. Au revoir Célia Mores.
Au revoir Fabrice.
C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
La sphère neuro, Célia Mores sur Nutri Radio.